Bonjour, bienvenue. Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'être avec nous. RFI vous informe et vous donne la parole dans 10 minutes vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes vos réactions sur la liste définitive des candidats à la présidentielle du 12 avril au Gabon. Mais d'abord le journal international. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Juan Gomez et on vous retrouve donc dans quelques instants pour rappel sur l'actualité. Mais pour l'heure, voici les titres. Plus de 50 000 morts à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Seuil dépassé ce week-end selon le ministère de la Santé du Hamas. Plus de 600 morts depuis mardi et la reprise des bombardements israéliens. L'État hébreu qui mène par ailleurs une nouvelle offensive à Rafah, ce qui provoque un nouvel exode massif des Palestiniens. Les pourparlers entre la Russie et les États-Unis ont débuté à Riyad, en Arabie Saoudite. Et en Ukraine, les citoyens redoutent un accord de cessez-le-feu déséquilibré, trop favorable à Moscou. En Guinée, de nombreuses victimes des massacres du 28 septembre 2009, toujours pas indemnisées, malgré la décision de justice de l'an dernier. Enfin en France, ouverture du procès du meurtre de Shaïnès Daoud, un féminicide qui a secoué le pays et qui a révélé la très mauvaise prise en charge des plaintes des victimes de violences conjugales dans l'Hexagone. Plus de 50 000 morts à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Seuil franchi ce dimanche selon le ministère de la Santé du Hamas, dont 673 depuis la reprise mardi des opérations militaires israéliennes. Après 2 mois d'une trêve très fragile, hier l'État hébreu a frappé un hôpital de Khan Younes dans le sud de l'enclave, tuant un responsable du bureau politique du Hamas et un adolescent de 16 ans, tous deux soignés dans l'établissement. Tandis qu'ordre d'évacuer a été donné à Rafah, notamment dans le quartier de Tel al-Sultan, quartier encerclé par l'armée israélienne, provoquant un nouvel exode des Gazaouis du sud de l'enclave. Correspondance depuis Ramallah, Amira Sulem.
Où aller ? La question revient sans cesse dans la bouche des Gazaouis. Certains disent avoir été déplacés parfois plus de 10 fois depuis le début de la guerre. Familles, vieillards, enfants, personnes parfois seules qui titubent, les images que nous recevons de Gaza donnent à voir un exode massif après l'ordre d'évacuer un quartier de Rafah, donné hier matin par l'armée israélienne. Partis dans la précipitation, certains ont eu le temps de prendre quelques effets personnels, d'autres disent ne même plus avoir de tente. On attend la mort, rien d'autre, nous confie un Gazaoui joint par téléphone. Un autre envoie des enregistrements de tirs qu'il entend depuis chez lui. Mêlé à des rires d'enfants du quartier et au chant des oiseaux, il témoigne d'une vie qui se fait au rythme d'une guerre qui n'en finit pas. Ce père de famille confie qu'il va quitter son appartement miraculeusement rescapé des bombardements pour se réfugier dans une parcelle en bord de mer. Lui qui s'y refusait catégoriquement a dû plier sous la pression de ses 3 enfants qui craignent pour leur jour. Alors que la guerre s'intensifie, Gaza reste soumis au blocus des camions humanitaires. Depuis 3 semaines, ni nourriture, ni médicaments, ni carburant n'entrent dans cette enclave plus que jamais coupée du monde. Amira Sulem, Ramallah. RFI.
Et ce matin en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou accuse lui Ronen Bar d'avoir enquêté sur un membre de son gouvernement sans l'en informer. Ronen Bar, patron du Shin Bet, destitué par Netanyahou et ses ministres. Décision suspendue par la Cour suprême israélienne. Ronen Bar qui aurait enquêté sur Itamar Ben-Gvir, ministre d'extrême droite chargé de la sécurité nationale. Nouveau round de négociations à Riyad concernant la guerre en Ukraine, des pourparlers indirects avec les États-Unis qui assurent la médiation. Une délégation russe est attendue ce lundi en Arabie Saoudite. L'émissaire américain Steve Witkoff qui se montre optimiste et dit s'attendre à de vrais progrès avant d'entamer les pourparlers avec Moscou. Pourparlers russo-américains qui viennent de débuter alors que les discussions avec l'Ukraine ont déjà eu lieu ce dimanche. Discussions productives, fait savoir Kiev, qui ont notamment reporté sur le secteur énergétique. Sur place en Ukraine, les citoyens redoutent un accord de cessez-le-feu déséquilibré, trop avantageux pour Moscou. Ils redoutent aussi une division de la société à l'image de Tetiana Polichuk, habitante de Kiev.
Ce qui m'inquiète le plus dans ces appels entre Poutine, Trump et Zelensky, c'est que les Ukrainiens risquent de se diviser. Certains veulent la paix et pensent que le cessez-le-feu serait la meilleure solution. D'autres veulent se battre jusqu'au bout pour l'indépendance de l'Ukraine. Dans les négociations à venir, l'essentiel est que notre peuple reste uni. Si les Ukrainiens sont unis, Zelensky le ressentira et défendra mieux la position de l'Ukraine dans ses pourparlers. Наполягати на
тому, щоб Україна була максимально суб'єктом в цих перемовинах. Des propos recueillis par Christina Petkova concernant ces pourparlers. Vous pouvez aussi réécouter Marina Koumeda, écrivaine ukrainienne, qui était ce matin l'invitée d'Arnaud Pontus. Entretien retrouvé sur notre site internet www.rfi.fr à l'onglet Grand Invité International. En Corée du Sud, le Premier ministre Han Duk-soo qui échappe à une procédure de destitution invalidée par la Cour constitutionnelle sud-coréenne. Suspendu par les députés il y a 3 mois, le voilà donc réinvesti dans ses fonctions de chef du gouvernement et de président du pays par intérim. Han Duk-soo, qui était accusé d'avoir entravé les procédures contre le président Yoon Suk-yeol, destitué en décembre après avoir tenté d'instaurer la loi martiale dans le pays. Le verdict de la Cour constitutionnelle concernant la destitution de Yoon Suk-yeol qui est attendu dans les jours à venir. En Guinée, de nombreuses victimes des massacres du 28 septembre 2009, toujours pas indemnisées, et ce 8 mois après un procès retentissant, la justice guinéenne qui avait alors condamné les accusés, dont l'ex-chef de la junte, le capitaine Moussa Dadis Camara, au paiement de plus de 19 milliards de francs guinéens en guise de réparation en faveur des centaines de victimes. Un paiement qui se fait donc toujours attendre, dénonce maître Alpha Madouba, l'un des avocats des victimes.
Ça fait 8 mois que le verdict a été rendu. Malheureusement, nous n'avons pas à date obtenu une quelconque réparation parce que la plupart des personnes qui ont été condamnées sont pauvres. Celles qui ont les moyens, on n'a pas pu retrouver leurs biens. Donc, on n'a pas pu mettre en œuvre la procédure d'exécution de la décision qui a été rendue. C'est vrai, la décision n'a de valeur que si elle est exécutée. On ne peut pas dire qu'on a un grand espoir puisque l'État traîne les pas. À l'ouverture du procès, on nous avait parlé d'un montant de 19 milliards. On ne sait pas qu'est-ce que ce montant est devenu. Donc, on ne peut pas aujourd'hui être totalement pessimiste, mais on est mesuré dans l'optimisme que nous devons avoir. Donc, cette question de réparation incombe en premier lieu au gouvernement guinéen, même si des personnes ont été condamnées. Et c'est de sa responsabilité d'indemniser les victimes.
Propos recueillis au micro RFI de Mukhtar Ba. Les États-Unis continuent leur politique d'expulsion. 199 migrants sont arrivés ce matin au Venezuela, un avion en provenance du Honduras, avec à son bord ces personnes expulsées par les États-Unis, ce qui marque la reprise des vols de rapatriement. Il s'agit du 5e vol vers le Venezuela depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. À peine arrivé, Mark Carney est lui déjà en action au Canada, premier ministre du pays depuis moins de 10 jours, en remplacement de Justin Trudeau. Mark Carney qui convoque déjà des législatives anticipées. Les Canadiens appelés aux urnes le 28 avril prochain. Mark Carney qui affirme avoir besoin d'un mandat fort pour faire face aux menaces de Donald Trump, qui cherche selon lui à briser le Canada. L'actualité en France, c'est l'ouverture de ce procès devant la cour d'assises de Bordeaux après ce féminicide qui a ému tout le pays. En 2021, à Mérignac, dans le sud-ouest du pays, Shaïnès Daoud était tuée dans des conditions très violentes, cette mère de famille brûlée vive par son mari. L'enquête qui avait révélé de nombreuses défaillances des services de l'État et poussé les autorités à prendre des mesures pour mieux protéger les femmes victimes de violences conjugales. L'affaire avait notamment mis en lumière la mauvaise prise en charge des dépôts de plainte des victimes. Rappel des faits, Marie Cazadebé.
Shaïnès Daoud sort de chez elle pour aller chercher ses enfants. Son mari Mounir, dont elle est séparée, l'attend caché dans une camionnette. Il lui tire une balle dans chaque jambe avant de l'asperger d'essence et d'allumer un briquet. Ce drame aurait-il pu être évité? Ce sera tout l'enjeu de ce procès. Le rapport de la police des polices pointe une avalanche de dysfonctionnements. Le harcèlement téléphonique de la jeune femme alors que son mari est en prison pour violence conjugale. Shaïnès Daoud porte plainte, mais faute d'être avertie, le juge d'application aménage la peine de Mounir. La jeune femme n'est pas prévenue de sa sortie de prison. Elle est à nouveau agressée. Nouvelle plainte, mal rédigée par les agents. Le parquet demande des précisions en vain. Le rapport révèle que les services de police ne parviennent pas à localiser l'homme. Il répond pourtant 2 fois aux convocations de son agent de probation sans être inquiété. Il se rendra même au commissariat pour se plaindre de ne pas voir ses enfants. Son nom, entré dans le logiciel, n'est relié à aucune autre affaire. 5 semaines plus tard, il tuera sa femme. Depuis, 5 fonctionnaires de police ont été sanctionnés.
Marie Cazadebé, suite au meurtre de Shaïnès Daoud, le gouvernement français qui avait annoncé de nouvelles mesures comme le renforcement des bracelets anti-rapprochement qui signalent tout rapprochement physique d'un conjoint violent. On termine sur les terrains de foot avec la remontada de la France en Ligue des Nations, battue 2-0 à Split jeudi par la Croatie en quart de finale aller. Les hommes de Didier Deschamps ont renversé la vapeur au Stade de France 2-0 là aussi, victoire donc des Bleus. Au tir au but, la France qui affrontera l'Espagne le 5 juin prochain en demi-finale. Les champions d'Europe qui ont ressorti les Pays-Bas au tir au but là aussi après un match nul très prolifique 3 partout. L'autre demi qui opposera l'Allemagne au Portugal 3 partout, là encore entre Allemands et Italiens. italiens hier en quart de finale retour. Après le succès de la Mannschaft à l'aller, le Portugal qui a lui renversé le Danemark 5-2 en prolongation. Enfin, pas de miracle pour la Nouvelle-Calédonie, battue en finale de la zone Océanie pour les qualifications du Mondial 2026. Défaite 3-0 contre la Nouvelle-Zélande. Voilà, on joue les prolongations désormais avec Juan Gomez pour rappel sur l'actualité.
On va pas parler football, hein, pas cette fois-ci
pas
en
cette
tout
fois.
Cas.
Une autre fois.
Merci Martin Guez, très bonne journée. 8h10 en temps universel, 9h10 à Paris. Reste avec nous dans tout juste 30 secondes. Vous avez la parole.